cohérence, elle est là. Il y a une cohérence. C'est pas du tout pâtissière ou cosmonaute, en fait. Quand on écoute que son désir, quand on écoute... Parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment pas été mue par des choix de carrière. J'ai toujours privilégié ce qui m'intéressait, ce qui m'amusait, ce qui me faisait plaisir, ce qui m'excitait intellectuellement. Donc c'est pas exactement un plan de carrière, hein, autant vous le dire. Mais bah, finalement, il y a une cohérence. Et tout se nourrit, tout s'alimente. Et ouais, finalement, ça va.
Bonjour Charlotte.
Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à chez moi.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors, je rappelle la ligne éditoriale de mon podcast Mine de Rien, pour les personnes qui l'écouteraient pour la première fois. La question que je me pose et que je pose à mes invités, c'est: peut-on évoluer, peut-on changer en restant fidèle à soi, à ses valeurs? Et d'ailleurs, je pose aussi un peu plus tard, je vous poserai la question de la loyauté. Donc la première question, qui est un petit peu décalée, c'est une façon de se présenter un peu différente, c'est: si vous aviez un animal totem, quel serait-il?
Un animal totem... Spontanément, là, comme ça, je dirais le colibri. Donc ce tout petit oiseau qui est vraiment minuscule, tout petit, et qui bat des ailes très très vite. Et il y a cette légende de, vous savez, il y a un grand incendie et tout le monde essaye d'arrêter cet incendie en amenant de l'eau, etc. Et puis il y a un colibri qui arrive avec sa toute petite goutte d'eau et on lui dit globalement: mais tu es inutile. Il dit: oui, mais enfin, moi, je prends ma part et je participe. Et j'aime bien cette idée de prendre sa part et de participer, de faire ce qu'on peut, mais de le faire avec cœur.
Oui, je comprends. Est-ce que c'est un lien avec votre livre qui m'a permis de vous connaître? Votre part, quelle est-elle, votre part, finalement?
Peut-être, vous avez raison. D'abord, il y a le côté coloré du colibri qui me rappelle en effet la couve du livre qui est très colorée. Peut-être que c'était ça, vous avez raison, il s'agissait de prendre ma part, c'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un, je n'étais pas un auteur, je n'avais jamais rien écrit, je n'étais pas une journaliste, je n'étais pas connue et tout ça. Mais je me suis retrouvée face à une question qui était l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans, notamment dans le travail. Et je trouvais qu'elle n'était pas traitée à l'époque. Et du coup, j'ai pris ma plume en me disant: bah oui, voilà, on va essayer d'apporter sa part.
Alors, je précise pour les auditeurs que le livre s'appelle Les Flamboyantes, de Charlotte Montpezat, et qu'il a été publié en 2023 aux éditions Équateur.
Oui, c'est ça, absolument.
Du coup, transition avec la question d'après. Qui êtes-vous, Charlotte Montpezat?
Qui suis-je? Dans quelle étagère? Qui suis-je? Alors, je suis une femme de 59 ans. J'ai deux enfants, c'est très important. Et puis, je suis psychanalyste et executive coach depuis 4 ans. J'ai fait une carrière dans les médias avant. J'ai vécu à l'étranger, j'ai souvent changé de métier. Pas forcément d'entreprise, mais souvent de métier. Et voilà, et j'essaie d'apporter ma part.
Très bien. Alors, première question que je pose traditionnellement à mes invités. Quels étaient vos rêves d'enfant?
Quand j'étais enfant, je voulais être journaliste ou maîtresse d'école. Deux métiers que j'ai pratiqués. donc c'est bien. Ensuite, j'ai dû inventer ma propre vie, au-delà de mes rêves d'enfant.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre itinéraire? Les morceaux choisis. Hein.
Oui, absolument. J'ai eu une enfance un petit peu, comment dirais-je, remuante. Et puis, j'ai passé mon bac. À l'issue de mon bac, mon père, qui était un aventurier, m'a dit: viens mon petit, on va faire le tour du monde. Je lui ai dit: oui, c'est génial. Et ma mère, un peu prudente, m'a dit: écoute, inscris-toi quand même en fac, on ne sait jamais. Je connais l'animal. Et donc, je me suis quand même inscrite en fac, mais vraiment comme ça, un peu par hasard, en demandant à la fille qui était devant moi: tu t'inscris en quoi? Elle m'a dit: en histoire de l'art. J'ai dit: ok, histoire de l'art. Je n'ai jamais fait le tour du monde. En revanche, j'ai fait des études totalement passionnantes d'histoire de l'art. Je me suis arrêtée après avoir fait l'intro de ma thèse, donc ça a duré quand même pas mal de temps, ces études. Vraiment, je me suis passionnée pour ça. Et ensuite, au moment où je me posais la question justement de faire ma thèse ou pas, j'avais quand même besoin de gagner un peu d'argent, parce que je travaillais dans un petit magasin de fringues pour payer mes études et tout ça, mais enfin bon, j'avais quand même besoin d'un petit peu plus de sous. Et à ce moment-là, une petite chaîne de télé qui venait de se créer m'appelle par copain de copain, etc. Ils étaient en train de monter la nuit du film d'art, et donc ils avaient besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un peu en art et qui parle un peu anglais. J'ai répondu, j'ai dit oui, c'était Canal+. J'ai fait, voilà, j'ai contribué à la nuit du film d'art et je suis restée à Canal+.
Pendant combien de temps ?
J'y suis restée de très nombreuses années. Une première période pendant quelques années où j'ai été justement journaliste dans des émissions, une émission qui s'appelait à l'époque La Grande Famille. On s'est beaucoup amusé. Et puis après, je suis partie à l'étranger pendant 5 ans. Je suis partie vivre à Hong Kong où j'ai créé un magazine économique. Ensuite, on est parti à Singapour. Je suivais mon ex-mari, enfin mon mari de l'époque, qui était dans la finance. Et à Singapour, j'ai été prof. Donc voilà, j'avais été journaliste, j'avais été prof. J'avais coché les cases de mes rêves d'enfant. Et puis on est rentré et par le plus grand des hasards, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas à Canal qui m'a rappelé. Et donc je suis retournée à Canal faire des choses totalement différentes puisque j'ai fait de la communication, communication externe d'abord pendant une dizaine d'années en fait, et communication interne ensuite pour le groupe qui avait énormément grandi. Donc il y avait Canal+, bien sûr, la chaîne qu'on connaît, mais il y avait aussi toutes les chaînes thématiques, il y avait toutes les présences à l'international, il y avait un studio de cinéma, Studio Canal, enfin bon. Donc c'était un très très joli groupe à l'époque, et donc là aussi je me suis régalée en fait. Et jusqu'au moment où bon, je continuais mon boulot, ça m'intéressait, mais quand même l'histoire de l'art revenait, et donc j'avais un peu plus de temps, ou je sais pas, ou liberté d'esprit, ou d'envie de réfléchir, et je me suis remise à écrire sur l'art, et notamment sur ma spécialité qui était l'art contemporain. Et ce faisant, il y a une fille à Canal qui faisait la détection de talent et qui s'est dit, bah, tiens, c'est marrant, Charlotte, bah, toutes les semaines, elle fait de la détection de talent puisqu'elle met en avant un artiste. Moi, je le faisais dans le Huffington Post à l'époque. Et du coup, elle m'a demandé de la rejoindre à la détection de talent, qui était une cellule de Canal+, puis de Vivendi. Pour trouver des nouveaux talents, des nouvelles écritures, des nouveaux humoristes. Voilà, donc j'ai encore changé de métier. Et c'est au moment où Vincent Bolloré est arrivé, donc du coup on a fait ça pour Canal, mais aussi pour Vivendi, pour le groupe Vivendi, qui comptait donc non seulement chaînes de télévision, studios de cinéma, mais des théâtres aussi, qui avait beaucoup d'ambition éditoriale à l'époque. Et puis assez rapidement, je me suis dit que, il allait falloir que je change de maison parce que j'avais pas forcément les mêmes vues éditoriales et les mêmes façons de voir la vie que ces nouveaux patrons. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que voilà, il faut se préparer quand on fait des changements de vie. Et j'avais divorcé entre-temps, donc j'étais seule. Enfin bon, donc il fallait que je sécurise un petit peu mes arrières. Hein. Et voilà, et donc j'ai quitté Canal il y a 5 ans.
Lorsque vous démarrez votre livre en parlant d'une lettre que vous avez reçue, à 45 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Et ça a été un déclic, si je comprends bien ?
Oui, ça a été un déclic, c'est vrai. Canal+, faisait partie de ces entreprises qui bichonnent plutôt leurs collaborateurs. Et dans ce cadre-là, l'entreprise avait passé un accord, enfin ce qu'on appelle l'accord senior, hein, avec le ministère du Travail. Et c'est à l'initiative du ministère du Travail qui s'était rendu compte que les entreprises avaient tendance à se débarrasser des gens de plus de 50 ans et qui avait demandé aux entreprises qui signaient l'accord senior de prévenir les cadres qui avaient 45 ans pour leur dire, attendez, dans 5 ans, ça va être un peu rock'n'roll, donc voilà.
Préparez-vous.
Préparez-vous, exactement. Ce qui fait que le jour de vos 45 ans, alors vous, je ne sais pas, mais moi, 45 ans, youpi, j'étais en pleine forme, j'étais, tout allait bien, la vie était belle, j'étais perchée sur mes talons et toute pimpante. Et je reçois sur mon bureau une lettre me disant, voilà, vous allez être senior, ça va être compliqué, préparez-vous. Et là, le terme de senior m'a coupé les jambes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? Donc, j'ai vieilli. Donc, je ne suis plus pimpante et pleine d'avenir comme avant. Je n'avais pas vu le temps qui passait. Et puis, j'ai regardé mes copines et je me suis dit, mais elles sont formidables, ces filles. On n'est pas vieilles, on n'est pas à reléguer. Et dans 5 ans, je ne vois pas ce qui va vraiment changer, finalement. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et est-ce que c'est uniquement pour les femmes ou est-ce que c'est aussi pour les hommes? Et je n'ai pas trouvé les réponses en fait que je voulais à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, ça doit être un vieux reste de quelques années d'université et de recherche en bibliothèque. J'ai commencé à chercher comme un écureuil dans sa roue, là, comme ça. Et puis j'ai commencé à écrire. Et voilà, j'ai commencé avec une amie. Puis après, j'ai continué seule, acharnée. Et j'ai fait ce livre.
Bah, que je recommande parce qu'il est très intéressant sur cette cible-là de femmes de plus de 50 ans, parce que je le trouve très bien documenté. Vous démarrez par... plutôt l'univers du cinéma, des médias, et puis après vous allez vers le monde du travail. Le constat est très complet. Et vous finissez à la fin du livre par des recommandations. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant. Après, chacune fait ce qu'elle a envie, hein, quand on lit le livre. J'espère qu'il n'y a pas que des femmes de plus de 50 ans qui le lisent. Hein. J'espère qu'il y a aussi des femmes de moins de 50 ans qui le lisent en se disant bah, peut-être que je peux amorcer certains changements de vie avant l'âge fatidique.
Oui, je l'ai même dédié à ma fille, qui a 30 ans, 31 ans, et pour en effet dire, enfin, en fait, c'est un message surtout pour les plus jeunes, pour leur dire, mais ne pensez pas que votre vie va être finie à 50 ans. En fait, c'est une image qui m'avait marquée. J'avais des amies qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, et quand elles apprenaient mon âge, elles tombaient des nues. Et elle me disait, mais comment est-ce qu'on peut encore faire la fête, rigoler, etc., sortir et tout ça, alors que tu vois, à l'époque, 52 ans, c'est possible en fait. Et tu vas voir, ça va bien se passer en fait.
Ben oui, vous faites tout l'inventaire des stéréotypes qui peuvent toucher les femmes. Et ce qui est amusant, je trouve, à la fin de votre livre, c'est vous en présenter d'autres, vous en proposer d'autres stéréotypes. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant. Est-ce que vous faites un lien entre ces deux rêves? C'est-à-dire le journalisme et l'enseignement.
Oui, clairement. Clairement, je pense que c'est la transmission et l'explication, ou l'explication et la transmission, l'explication du monde et la transmission. Passer le relais, ce que j'ai fait aussi avec le bouquin d'ailleurs. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est prendre la main des gens. Et les amener à un endroit qu'ils n'imaginaient pas forcément dans un esprit positif.
Et moi, je vois le lien avec l'accompagnement aussi.
Ben évidemment, absolument. Ouais. Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est amusant aussi quand on vieillit et qu'on se retourne derrière soi. Alors moi, j'ai eu vraiment un parcours, j'ai fait 150 métiers. Hein. Mais finalement, quand je me retourne, je me dis, mais voilà, la cohérence, elle est là. Il y a une cohérence. C'est pas du tout pâtissière ou cosmonaute, en fait. C'est finalement, quand on écoute que son désir, quand on écoute... Parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment pas été émue par des choix de carrière. J'ai toujours privilégié ce qui m'intéressait, ce qui m'amusait, ce qui me faisait plaisir, ce qui m'excitait intellectuellement. Donc, c'est pas exactement un plan de carrière, hein, autant vous le dire. Mais... Ben finalement, il y a une cohérence et tout se nourrit, tout s'alimente. Et finalement, ça va.
Oui, on parle d'alignement en coaching. Mais,
oui, c'est ça, c'est une forme d'alignement. Bon, ce n'est pas quelque chose que je préconiserais vraiment à quelqu'un qui veut faire une carrière, comment dirais-je, financièrement flamboyante. Voilà. Mais en revanche, en termes d'intérêt, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de sentiment d'alignement, si vous voulez. Ah oui, bien sûr.
Bah dans les bilans de compétences, c'est aussi intéressant, on le fait ce travail-là, c'est-à-dire d'aider les gens à faire l'inventaire de leurs compétences, des compétences acquises dans le cadre professionnel ou même extra-professionnel depuis le début, et de voir quel est le lien, quelle est la cohérence justement entre dans un parcours de vie ou une histoire de vie. Et bien souvent, on découvre des cohérences là où on pensait qu'il n'y en avait pas en fait.
Oui, absolument, tout à fait. Les choses sont rarement aussi décousues qu'on le pense.
Ouais. Justement, ça me fait penser à la question de la transmission. Et de quoi pensez-vous avoir hérité et que souhaitez-vous transmettre?
Alors, de quoi j'ai hérité? J'ai hérité de la curiosité. J'ai hérité de la curiosité du monde, de la soif d'apprendre, de la soif de découvrir. J'ai hérité d'une énergie aussi, sans doute un peu brouillonne, un peu dingue. Mais voilà, mes deux parents étaient extrêmement différents. Donc l'un était un aventurier totalement fou, et l'autre une femme vraiment brillante, mais qui n'a jamais eu la carrière qu'elle aurait dû avoir, mais vraiment brillante. Mais tous les deux m'ont donné en partage la curiosité. Ouais. Et ça, vraiment, je les remercie pour ça.
Vous pensez que la curiosité se transmet,
J'espère.
Et que ce n'est pas forcément une qualité que l'on peut avoir sans transmission particulière.
Bon, alors, vous savez, moi je suis psychanalyste, hein, donc je pense que tout se transmet. Hein. Bon, ça c'est une chose. Après, dans la réalité, je pense à mes enfants et j'espère que je leur ai transmis ça. J'en sais rien en fait, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais fait peur aussi à vouloir tout le temps découvrir des nouveaux trucs, à tout le temps les emmener dans des choses, dans des endroits bizarres, à manger des choses curieuses. Enfin bon, peut-être que je les ai un peu effrayés, je ne sais pas. Peut-être que ça viendra aussi plus tard. Mais oui, je pense que ça se transmet dans la mesure où c'est quand même c'est une attitude au monde. C'est-à-dire que ce sont des réflexes, en fait. Au lieu de se fermer, de se dire « Ah tiens, ça je connais pas, est-ce que je me ferme ou est-ce qu'au contraire, j'y vais, je vais regarder ?» Dernière marotte, l'intelligence artificielle. Bon, voilà, je pourrais me dire, ok, je vais m'en passer, tout ça. Non, je trouve ça fascinant, passionnant, je me jette dedans, bien sûr. Mais c'était sensible dès le départ, quand je me suis passionnée pour l'art contemporain dans mes études. C'était pas par choix esthétique, c'était par envie de découvrir ce qui était en train de se faire. Et donc, la façon dont les artistes pouvaient parler d'un monde qui était encore à découvrir.
Et la beauté et la psychanalyse ?
Bon, la beauté, à part le fait qu'elle sauvera le monde. non, la beauté et la psychanalyse, la psychanalyse n'est pas qu'une affaire de beauté, hein, bien sûr. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art. C'est pas tellement la beauté, finalement. C'est vraiment
la beauté du monde, hein, j'entendais.
Ouais,
hein,
la beauté du monde. La beauté. L'émerveillement, oui. Le lien qu'il pourrait y avoir avec la psychanalyse, c'est que la psychanalyse, elle libère, en fait. Elle permet d'être libre dans sa façon d'aimer, dans sa façon de travailler, comme disait Freud. Et donc, elle permet de se débarrasser de carcans et d'œillères. Donc évidemment, quand on a moins d'œillères, on est plus perméable à la beauté du monde.
Et c'est un conseil que vous donnez d'ailleurs à la fin de votre livre, c'est d'être vraiment ouvert au monde et de ne pas avoir de barrières, de principes, parce que ça peut empêcher, effectivement. Ça peut
c'est
empêcher
ça.
Des évolutions de carrière ouais, pour les femmes de 50 ans.
Alors, bien sûr, on peut avoir des principes. Hein. Je vous dis pas d'envoyer tout valser par-dessus les moulins, bien entendu. Chacun a ses... Mais on peut avoir des principes sans avoir des œillères. Et puis, on peut remettre en question ces principes. aussi. On peut les examiner et se dire que peut-être on peut se passer de l'un d'entre eux ou de plusieurs d'entre eux, que peut-être on peut en déplacer les bornes, peut-être que voilà. Et que les idées que l'on avait il y a 10 ans ne sont peut-être plus actuelles et qu'il faut peut-être voilà, réexaminer tout ça. Mmh. Il faut être en mouvement permanent finalement. À partir du moment où on s'arrête de bouger, où on s'arrête de réfléchir, on meurt, en fait. Voilà. Donc oui, je prône une curiosité et un mouvement permanent. Alors, c'est peut-être un peu fatigant, mais c'est passionnant.
Ouais, ça peut nécessiter de se ressourcer pour retrouver l'énergie.
Bien sûr, notamment. Évidemment qu'on a besoin de se ressourcer. Tout à fait. Ça ne veut pas dire de s'agiter comme un écureuil dans sa roue. Hein. Il y a des moments de pause, évidemment. Il y a des moments... cette curiosité, elle peut être aussi assez contemplative. Hein. Mm. Et elle peut être aussi de laisser venir à soi des idées, tout simplement. Donc ça peut être... c'est pas forcément agité, vous voyez.
Et quel est votre moteur de créativité ?
Moteur de créativité. Alors ça, je ne sais pas trop si...
Parce que vous m'avez l'air très créative.
Ben, oui, il paraît. Je ne m'en rends pas compte, mais il paraît que je suis assez créative. Mais je laisse venir les idées à moi, justement. J'essaye pas de forcer, finalement. Et alors, c'est assez flippant. Et bon, mon métier n'en dépend pas, mais c'est un processus que je vois avec tous les artistes avec qui je travaille, parce que j'ai pas mal d'artistes qui travaillent avec moi. C'est vrai qu'il y a souvent une grande période de latence, où là, on se dit, mais je ne fais rien, je suis flemmard, je n'ai aucune idée, je passe ma journée à regarder des séries nulles, je glandouille, vraiment, je n'ai plus aucune idée, je n'écrirai plus jamais, je ne peindrai plus jamais, etc. Mais en fait, ce sont des périodes de latence, de jachère, exactement, et tout d'un coup, pouf, ah ben tiens, ah mais oui, ah mais top, hop, et puis hop, c'est reparti. Donc, moi, je fais un peu pareil.
Mais je trouve qu'une des bases de la créativité, c'est pas la seule, mais c'est aussi de faire des liens.
Oui, bien
des
sûr.
Des liens entre connecter des tas de choses. Voilà, bien de sûr. Connecter entre des tas de choses mmh. qui, a priori, ne sont pas très liées.
Mmh. Rien ne se crée, tout se transforme.
Ouais.
Mmh. Oui, absolument. Mais là, et encore faut-il être curieux pour trouver ces points, justement, et pour voir ce qui peut les relier.
Mmh. Ça vous arrive d'accompagner des gens qui ne vous semblent pas curieux ?
Déjà, pour venir ici, il faut l'être un petit peu. Hein, il faut être curieux de soi-même, il faut se poser des questions. On n'arrive pas ici si on ne se pose pas de questions. Il faut se dire, tiens, c'est quand même bizarre. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs fois les mêmes erreurs. Ça, il y a de la répétition. Ou alors, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis tout le temps dans le même bourbier professionnel ou relationnel. Enfin, il faut se poser des questions pour venir ici. Puis on s'en pose. Et donc, il faut être curieux. Si on ne s'en pose pas, on ne vient pas.
Ça rejoint un peu la ligne éditoriale de mon podcast sur le qui est comment peut-on changer ou évoluer. Donc ça rejoint ce que vous disiez hein, sur la nécessité vitale d'évoluer ou de alors de changer je ne sais pas mais en tout cas d'évoluer. Est-ce qu'on peut le faire en restant fidèle à soi et à ses valeurs ou est-ce qu'on peut le faire autrement d'après vous?
Je pense que si les valeurs sont vraiment vos valeurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des valeurs exogènes qui ont été plaquées sur vous par des parents, un milieu social, si ce sont vraiment vos valeurs, vraiment ce à quoi vous croyez, oui, bien sûr, on peut évoluer en gardant ces valeurs. C'est même la condition pour une bonne évolution, c'est d'avoir des valeurs à soi assez profondes, comme des racines. Après, ce sont des valeurs... J'anticipe la question, mais alors quelles sont vos valeurs? Je suis là, oh là là, mon Dieu, comme ça va être difficile. Ça peut être des grandes notions un peu générales, et après ça peut s'affiner, ça peut prendre certaines couleurs différentes, des tonalités différentes au fur et à mesure de la vie, certainement. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Non, mais c'est intéressant parce que ça me fait penser à la sociologie clinique à laquelle j'ai été formée, justement, où... on analyse les liens entre les héritages et ce que l'on fait de ce dont on a hérité. Mm. Et moi, ça me passionne parce que je trouve qu'on est totalement libre, en fait. Libre d'intégrer l'héritage côté paternel, côté maternel, vous l'avez un peu dit, libre d'intégrer ou pas.
Ou de le refuser, absolument. Oui. Mais on est complètement libre, si seulement. Enfin, en même temps, si on était complètement libre, j'aurais plus de travail. Mais bien sûr, dans la réalité, on est totalement libre, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on est conditionné ?
Donc le déconditionnement peut être long.
Oui, le déconditionnement peut être long, bien sûr qu'il peut être long. Mais il est nécessaire pour pouvoir profiter justement de cette liberté, pouvoir profiter de tous les atouts qu'on a, que chacun a en soi. Mais pour ça, il faut se déconditionner, oui, je pense, ouais, souvent.
L'écriture m'a l'air d'être aussi un fil conducteur, parce que entre le journalisme, évidemment, ça paraît assez évident, mais... dans votre histoire, le journalisme,
oui,
l'enchaînement, l'écriture peut être très présente. Et maintenant ?
J'ai dû écrire ma première histoire quand j'avais 6 ans, oui. Mm. Oui. Donc ça a toujours été là, oui. Oui. Ça a toujours été là et j'ai toujours voulu écrire un livre. Voilà, j'en ai écrit un, ça y est, ça s'est fait. Est-ce que j'en écrirai un deuxième, on verra. Oui, j'adore écrire. Oui, j'adore écrire. C'est très difficile, c'est quelque chose qui s'apprend tout le temps. Enfin, moi, je trouve ça très difficile, hein, je ne suis pas si menon. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec des pinceaux, il y a des gens qui sont à l'aise avec un burin de sculpteur, il y a des gens qui sont à l'aise dans la chasse aux papillons. Moi, je suis à l'aise avec un crayon, avec un stylo, et c'est comme ça que j'arrive à réfléchir. C'est-à-dire que si je veux vraiment réfléchir à quelque chose, ce n'est pas en me posant sur un canapé et en laissant ma pensée aller, ou alors ce n'est pas non plus en discutant, c'est vraiment en écrivant. Ça, c'est une forme d'esprit, je ne sais pas d'où je tiens ça. Enfin, si, je le sais. Mon père écrivait beaucoup.
Oui, d'accord.
J'ai toujours envie d'écrire.
À propos de liberté, ça me permet d'anticiper la question d'après. C'est quelle est l'audace dont vous êtes la plus fière et justement, quelle liberté vous êtes fière d'avoir pu conquérir ?
Alors, l'audace dont je suis la plus fière, c'est marrant parce que spontanément, je vous dirais, c'est d'avoir eu des enfants. Ça me paraissait incroyable, ça me paraissait dingue, ça me paraissait, mais... Oh, oh là là. Bon. Alors après, c'est pas... Enfin, je suis évidemment excessivement fière de mes enfants, mais c'est eux qui sont formidables. Là où je me suis un peu épatée, en fait, peut-être, c'est en quittant mon boulot à 55 ans, célibataire, pas héritière, enfin bon, voilà, en me disant, allez, une nouvelle vie, quoi. Là, je me suis dit, ouais, pas mal.
Quel conseil vous pourriez donner du coup à des femmes qui nous écoutent de 55 ans, qui sont pas très heureuses, pas forcément très heureuses dans leur travail, ou qui ont envie tout simplement de faire autre chose, en fait?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la vie est longue, hein. Et donc l'éternité, c'est un peu longuet, surtout sur la fin, comme disait Woody Allen. Donc il faut se dire qu'à 55 ans, on a encore au moins 10, voire 15 ans à travailler. Et alors après, moi je vais dire un truc qui est sans doute pas politiquement correct, c'est que j'adore travailler. Je trouve que c'est formidable de travailler. Moi je m'épanouis beaucoup dans le travail, en fait. Sans doute parce que j'ai choisi aussi ce que je faisais et que j'ai toujours fait le choix de choses qui convenaient voilà, à mes valeurs, à ce que j'avais envie de faire, tout ça. Donc moi j'aime travailler, donc je suis contente à l'idée de travailler encore longtemps. Mais du coup, je m'étais dit, quand j'étais encore à Canal, je m'étais dit, j'ai très envie de travailler très longtemps, mais pas dans ce métier-là. Ce métier-là, là ça s'est terminé, cet environnement-là, ça s'est terminé. et je ne veux pas justement dégrader mon rapport à la vie et mon rapport au travail, c'est-à-dire maigrir, enfin devenir aigrie, devenir grise, être dans un placard, etc. Simplement en me disant, ben non, ben, il faut que je reste là parce que j'ai... Non, 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 allez, zou, ok, je vais tenter autre chose. Mais la vie est trop belle, elle est trop courte aussi pour la gâcher. Hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas heureuse, il me semble que c'est ce que j'avais dit à une conférence où on s'était vu, si vous n'êtes pas heureuse avec votre mari, changez-en. Bon, ben, le travail, c'est pareil. Alors oui, c'est pas facile, je suis d'accord. C'est un conseil qui est pas simple. J'ai jamais dit que ça serait simple, hein, bien sûr.
Et pour celles qui ont peur ?
Ah ben, on a toutes peur. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, bien sûr qu'on a peur. On est morte de peur quand on fait ça. Donc il faut préparer, il faut travailler. La seule recette que je connais contre la peur, c'est le travail. C'est-à-dire travailler, se dire, ok, alors, comment est-ce que je prépare ça ? Ça, c'est le métier que je veux faire. Quelles sont les études, les formations, les machins, les trucs ? Ok, combien je vais gagner ? Faire un plan de... comme un business plan, hein, voilà, tout simplement. C'est-à-dire comment ça va se passer, etc. Combien d'années, hein, la retraite, tout. Tout calculer, tout prévoir. Enfin, essayer, parce que la vie, après, elle a beaucoup plus d'imagination que nous. Donc, elle nous amène dans des endroits où on n'imaginait pas. Mais en tout cas, voilà, travailler. Se colter au réel, en fait. C'est la seule façon d'endiguer la peur. Pour endiguer la peur, il faut se mettre en action. Hein, c'est le principe de base. Donc, voilà, en action. Et si on a peur de son avenir, se mettre en action sur son avenir.
Il y a quelque chose qui m'a frappée, là, dans le... vous en parlez, vous avez interrogé des RH. Et lorsque vous avez reçu cette fameuse lettre, je crois qu'il y a une DRH qui vous dit, mais... Les hommes ne sont pas venus dans mon bureau me dire la même chose que les femmes, en fait. Les femmes et les hommes n'ont pas du tout eu la même réaction
oui, c'est très,
en
très
recevant
drôle.
Cette lettre à 45 ans.
Mmh, absolument. À 45 ans, quand on dit à un homme qu'il est senior, il arrive dans le bureau de la DRH, il tape du poing sur la table, il dit « Ok, super, alors donnez-moi des responsabilités, une augmentation, une voiture de fonction, et maintenant je suis le boss. » Une femme, elle arrive en disant « Non mais, enfin, je viens de me réinscrire à la gym. » Voilà. Les femmes sont en permanence renvoyées à leur corps, en permanence renvoyées à leur image. Or, il s'avère que les femmes, à partir de, non pas 45, mais plutôt un peu après, 50 ans, dirons-nous, sont renvoyées à une image d'un corps périmé, d'un corps qui ne peut plus avoir d'enfant. Dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Dans les sociétés patriarcales. C'est ce que je décris dans le livre, et avec moult recherches à la pluie. Hein. J'ai pas inventé tout ça. Et du coup, les femmes à cet âge-là sont particulièrement fragiles. Elles ont une dépréciation narcissique, en fait, qui est immense. Là où les hommes sont au fait de leur gloire, ils ont les tempes grisonnantes et youpi, voilà, tout va bien. Les femmes, elles, se sentent atteintes dans qui elles sont. Donc c'est pour ça qu'il me semblait que le sujet était vraiment genré, enfin que c'était vraiment la question des femmes à cet âge-là qui était plus importante, plus intense. Les entreprises sont cruelles envers les hommes aussi à 50 ans, hein. Je ne le nie pas. Mais quand même, on voit que c'est plus cruel pour les femmes et que les femmes ont plus de mal à retrouver du boulot. Et ça se voit sur les montants des retraites notamment, hein, puisque les retraites en droit direct sont de 40% inférieures pour les femmes que pour les hommes. Donc, il y a une violence, une inégalité très importante là-dessus.
Oui, vous décryptez bien les phénomènes un peu de société en pointant le doigt sur un système. Et par ailleurs, vous jouez aussi sur la corde de l'individualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme. Évidemment, on ne peut pas toute seule changer un système, mais vous donnez quelques conseils sur ce que l'on peut faire à titre individuel, soit justement pour mener à bien une carrière, pour préparer sa retraite, pour être indépendante financièrement, voilà.
Oui, c'est ça. Je pense que, alors bien sûr, c'est un système. Donc, il faut qu'il y ait une action institutionnelle, il faut qu'il y ait une action, me semble-t-il, des entreprises, il faut qu'il y ait une action des médias, mais on ne peut pas tout attendre des autres. Il faut aussi se prendre en main, se responsabiliser. Et il faut tout simplement se rendre compte que chaque action a une conséquence. Et donc, si on ne s'est pas occupé de sa retraite pendant toute sa vie, bah oui, ça va être difficile, ça va être compliqué. Donc, il faut préparer ça, bien sûr. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, quand on a 20 ou 30 ans, la question de la retraite, on s'en fiche. J'en suis la première, le premier exemple, puisque moi, je suis partie, j'ai filoché à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger sans me soucier de ma retraite, et donc je le paye maintenant. Je ne regrette rien, mais quand même, il faut faire attention. Donc oui, c'est ça, il faut préparer les choses, absolument. Et pour ça, il faut que les femmes apprennent à parler d'argent. Il faut qu'elles apprennent à parler d'argent dans leur couple, il faut qu'elles apprennent à demander des augmentations, il faut qu'elles apprennent à gérer leur argent.
Parler d'argent avec leurs enfants aussi.
Et à parler d'argent avec leurs enfants également, tout à fait. Une fois de plus, les conseillères ne sont pas les payeurs, je ne suis pas la meilleure là-dessus. Mais oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a vraiment des outils pour ça. Il y a des tas de choses qui ont été mises en place par... des systèmes d'information par Vive Média. Il y a cette fille Héloïse Boll qui a écrit un bouquin formidable, qui donne des tas de solutions, des tas d'idées pour prendre en main ses finances. Et c'est très important parce que l'argent, c'est la liberté. Hein. Et donc ça, il faut que les femmes le conscientisent un petit peu.
Parfaitement d'accord avec ça. On a le même constat. Dernière question, quels sont vos projets qui vous tiennent le plus à cœur dans les 6 prochains mois, par exemple ?
Ce sont des projets créatifs. J'avais mis au point pour une boîte cette année un système de MBA interne, qui est génial, mais vraiment, j'en suis tellement fière. Et j'aimerais bien le vendre à d'autres boîtes, non pas pour, enfin, bien sûr pour le vendre, mais aussi parce que c'est un projet génial. Enfin, c'est un produit formidable. Donc ça, j'aimerais bien le faire parce que c'est assez excitant et que, j'adore la vie des entreprises. J'adore ça. Je trouve, la sociologie des organisations. Je pense que être familière de ça. Je trouve ça totalement fascinant. Donc, bref, j'ai ce truc-là sur lequel j'aimerais vraiment continuer à travailler. Et puis, j'ai la plume qui me démange. Donc, on verra bien, mais elle me démange.
Voilà. On a hâte.
On va voir.
Merci, Charlotte.
Merci beaucoup.